qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Alors c'est un qu'est-ce qu'on déguste de rentrée, on a tous nos cartables tout neufs, nos trousses, et on est prêt pour cette rentrée de QQD. Qu'est-ce qu'on déguste depuis chez Lulu la Nantaise, place du Coq à Montauban, au cœur de Montauban, Montauban qui ce week-end va fêter les 400 coups. Et donc, nous, on en est de la partie, du coup. On est là à l'invitation de Philippe. Salut, Philippe.
Bonsoir et bienvenue chez Lulu.
Quelle belle voix pour nous. Bonsoir et bienvenue chez Lulu. Et derrière.
J'ai mon fan de club derrière.
Derrière, il y a les groupies. Super.
Ça commence fort.
Merci de nous accueillir.
Évidemment, c'est un grand plaisir.
Pour cette émission de rentrée. Et pour le coup, tu as des invités aussi autour de la table. Tu nous les présentes ?
Alors, à ma gauche, il y a Michael Garrig qui est négociant en vin.
Bonjour, Michael.
Bonjour et bonjour à vos invités.
À son côté, il y a Eric Skeven qui est mon fournisseur attitré de fruits et légumes, donc qui est producteur aussi.
C'est à lui qu'on doit tous les beaux fruits et légumes qui sont posés
Exactement.
Ici.
Exactement.
Superbe plateau.
Ouais, magnifique. Et puis,
après, juste en face de moi, vous avez Benoît Rottier, qui est l'artisan glacier avec qui je travaille depuis à peu près un an. Voilà
artisan glacier dans le Lot-et-Garonne. Hein,
à Villeneuve-sur-Lot.
Les glaces Benoît de la Lune, qu'on aura l'occasion de déguster durant cette émission, parce qu'il y a plein de choses à déguster. Il y a déjà des huîtres qui sont là, il y a des fruits, il y a des légumes.
Alors, il y a quelques tapas. Hein, voilà. Là, à l'occurrence, c'est le mozzarella, avec du speck fumé, de la ricotta.
Oui, parce qu'on est venu là, normalement, pour la nouvelle carte de tapas. Oui, c'était un peu le pitch de...
Mais ça, c'est parce que c'était normalement à la fin du printemps dernier, au début
On aurait dû faire ça juste avant l'été, mais bon...
On a pris un peu de retard.
Oui, mais c'est pas grave.
Bon. Enfin, tout ce qu'on va déguster ici, c'est à déguster le midi ou certains soirs.
Ou le vendredi soir, chez Lulu. Alors là, en l'occurrence, ce sont les tapas, une partie des tapas. Donc vous avez des antipastis là-bas, de ce côté. Vous avez l'assiette italienne, donc avec mozzarella burrata.
On va avoir l'occasion d'en reparler.
On pourra en reparler plus tard.
Il y a Pascal Olivier, bien évidemment.
Salut à tous.
Il y a Christophe Bory, bien sûr.
Oui, je suis là, c'est la rentrée. C'est chouette.
Ouais.
Dans les vacances.
Il y a Gaël Stenbach, salut.
Oui, salut.
Bon, ben voilà.
Là, c'est la rentrée aussi.
On a une petite pensée pour Georges qui est excusé et qui nous rejoindra dans quelques émissions.
Oui, bah on espère.
Il prolonge un peu ses vacances.
Il pensait que c'était demain l'émission.
Et Aurélien étant à la technique, eh bien on commence comme ça. Dans le vent d'auvert, évidemment, on trinque un coup.
Allez, toi, moi, vas-y. Attention, c'est du pélo.
Did my best in order to hold down, down, down. Gaining money so that I can spend some. Won't keep it secret till years go bop, bop, bop. All for me it is, so I could shine, shine, shine.
Naive New Beaters. Les trois Parisiens sont de retour avec un album qui s'appelle La Honda.
Nous redémarrons donc la saison chez un hôte de choix, j'ai nommé Lulu la Nantaise, célèbre restaurant bar musical de Montauban, créé et dirigé de main de maître par Philippe. Lulu la Nantaise, patronyme tout droit sorti des tontons flingueurs et de sa célébrissime scène de la cuisine où Monsieur Fernand Naudin de Montauban, les frères Wolfoni et Maître Folas dégustent une drôlerie concoctée en son temps par Joel Trembleur. 50 kilos de patates, un sac de sciure de bois et il sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, le Joe. Vous savez, Lulu la Nantaise, c'est cette blonde coma qui tenait une petite tôle dénommée les Volets Rouges à Biennois, pas très loin de Saigon, qui est aujourd'hui au Chiminville, toute une époque. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est que Philippe indique sur son Facebook qu'il a étudié à Saigon. Quelles études d'ailleurs, on se demande, mais on lui demandera ça dans quelques minutes. Quoi qu'il en soit, moi je pense que ces études lui ont laissé quand même suffisamment de temps pour effectuer régulièrement les 32 km séparant Saigon de Biennois pour fréquenter assidûment les Volets Rouges. Et en hommage à cette blonde Comac, et son hommage à cette blonde Comac, nous en dit long sur le souvenir qu'elle lui a laissé. T'aurais pas une photo, Philippe, par hasard?
Non, je suis marié avec une brune, je signale.
Mais moi j'ai trouvé une photo de Lulu la Nantaise.
Bah écoute...
À part ça, chez Lulu, on aurait pu se délecter d'une soupe feu, qui est le plat national du Vietnam, ou de mix au don, qui sont les nouilles sautées croustillantes. Mais non, Philippe nous concocte des plats canailles à midi, la viande vient de chez Roland, à côté, ex-burgalière, les fromages de la fine bouche, des glaces, eh ben on a le glacier qui est là, des légumes de Montauban, du pinard, enfin tout ce qu'il faut, ça c'est du boulot de pro. Et le soir, il y a des tapas, des planches de charcutaille, du fromage, des huîtres en saison, hein, ça réjouit les affamés, tout ça. Et les vendredis soirs, là, c'est musique. Apéro mix ou live en concert ou quand Philippe il veut, et ben il se met à mixer.
De moins en moins quand même.
Mais si. Bon, bref, et en trois mots, c'est un vrai paradis. Cependant, attention. Ah, un petit bémol cependant.
Le revers de la médaille.
Philippe, ce pello que tu sers n'est pas à la hauteur de cet établissement prestigieux. Ton pello, c'est du casse-pâte. Fais gaffe, on est en train d'arrêter la fabrication, il y a des clients qui deviennent aveugles et ça fait des histoires. Je me demande quand même si chez Lulu, Joel Trembleur, il fait pas un peu de blague à la cave.
Côté de la pomme. Hein.
Pour cette introduction, merci.
Et je bois du pello et je lève mon verre.
On n'a pas vu la photo quand même de Lulu, il faudrait que tu fasses un peu le tour. Hein.
Photo de Lulu, elle sera sur quesconteguste.com.
Ré Lulu la Nantaise, les Volets Rouges.
Oh, il avait déjà inventé le Botox.
Cette émission en podcast. Alors.
Qu'est-ce que tu faisais à Saigon?
Bah écoute, mon service militaire, monsieur.
Ah. Et donc, t'étais à Biennois, à la base
exactement,
aérienne. Et les Volets Rouges
oui.
C'est vrai, t'as fait ton service militaire?
Non, pas du tout, je suis réformé P4.
Ah, ça me rassure. On est entre gens de bonne compagnie.
Exactement.
Petit rappel sur la création de Lulu la Nantaise et le choix de ce nom, justement. T'es un passionné de ce film ou quoi?
Tout à fait, un passionné, mais à la
qui
fois.
Qui ne peut pas l'être.
Parce qu'au départ, tu vends des fringues, toi.
J'ai fait plein de choses. Ouais. J'ai vendu des fringues, oui, effectivement. L'idée, c'était de créer un petit endroit convivial où on y mange le midi. On se fait plaisir en fin de semaine, le vendredi soir, avec une petite musique sympa. Et voilà, donc du coup. L'idée, c'était de créer... et puis même à l'époque, je pense qu'il y avait beaucoup de
c'était quand à l'époque? Combien de temps?
Écoute, ça fait 7 ans maintenant.
Comme le temps passe. Il ne se passait pas grand-chose il y a 7 ans, sur Montauban. Dans les bars, les bars apéro avaient un petit peu disparu. Il n'y avait pas de bar ambiance. Il n'y avait plus grand-chose qui se faisait. Bien sûr, il y avait toujours, par exemple, le Flamand et le Raymond qui sont les inénarrables, qui sont là depuis toujours. Mais après, il n'y avait pas grand-chose d'autre, en fait,
non.
Au moment où tu as monté ça.
Voilà, c'était un peu l'idée de faire vivre un petit peu le côté apéro festif et le petit plat canaille du midi. Voilà.
Et cet endroit, quand même, exceptionnel, parce que bon, on est sur Place du Coq, il y a la place, ça fait une belle terrasse l'été.
Oui, c'est un endroit qui...
Il y a les avocats à midi.
Il y a les avocats aussi, on ne les fait pas que du guacamole, on les fait manger aussi. Effectivement, il y avait déjà un café depuis 18 ans qui s'appelait le Bar du Palais.
Ouais.
Voilà, donc qui était vieillissant, qui avait besoin d'un petit coup de neuf et puis de revenir sur le marché. Donc du coup...
Et alors, au bout de 7 ans, est-ce que c'est dur de se renouveler? Est-ce que...
Mais c'est
où, est-ce que tu en es aujourd'hui?
Se renouveler, c'est très dur, oui, mais bon, à la fois, il faut passer
ça
à
ça. Ça s'est rempli, Montauban, aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, mais écoute, on n'a pas baissé du tout en activité. On a, par contre, effectivement, on ne baisse jamais les bras, quoi. On est dans le mouvement, voilà.
Donc, et une équipe de combien de personnes aujourd'hui chez Lulu Lanantaise?
On est 7 personnes à travailler.
Combien?
7 personnes.
7 personnes.
Voilà, vous avez 3 personnes en cuisine, 3 services, plus moi, voilà, en gros.
Donc l'idée, ça reste toujours le vendredi soir, le samedi soir, non, il se passe
non,
rien.
Non,
les autres soirs de la semaine, ça finit vers 20h.
Tout à fait, on fait 8h-20h tous les jours, sauf le vendredi où on fait jusqu'à 2h du mat, avec une petite animation l'hiver. L'été, c'est un petit peu plus tranquille, on est en terrasse, on sirote des petits verres avec un peu de musique de fond. Voilà.
Ouais. Le matin, tu ouvres tôt quand tu te lèves pour le café?
Ça dépend ce que tu appelles tôt. Pour moi, c'est tôt, c'est 8h, j'ouvre à 8h, voilà. Ouais. Donc je me lève tôt, oui, 7h, c'est pas mal quand même, non, moi, je sais pas.
Non,
il y en a qui se lèvent plus tôt, hein, effectivement. Oui,
tout à fait. Alors, donc là, ben, on déguste quelques huîtres qui vont être encore à la carte tous les midis.
Voilà, la saison des huîtres va repartir. Donc du coup, effectivement, il y a des huîtres à la carte le midi. Et vous avez également aussi les huîtres le vendredi soir pour les tapas. Et même à l'heure de l'apéro pour ceux qui veulent se délecter de quelques huîtres, un petit verre de vin blanc.
Voilà, bon, ben, pour le vin blanc, c'est le fameux pélo.
Il y en a d'autres. Il y a aussi un muscadet, il y a Lulu Lalantaise un muscadet, des deux sèvres, mais qu'on n'a pas pour le moment, mais qu'on va rentrer.
Que le groupe amène chaque fois qu'il vient.
Oui, voilà, il y a longtemps qu'ils n'ont pas joué, donc effectivement, il n'y avait plus de stock, mais ça va revenir. Et après, on fait confiance à notre ami Michael, qui va nous fournir tout le long de l'année quelques breuvages.
On essaye.
Bah, mais moi, j'aimerais quand même le regard du professionnel, Michael, sur ce pélo justement qu'on est en train de boire.
Tant décrié
par Pascal, mais pas par tout le monde.
Non,
mais
c'est moi la
blague. Il y en a qui le boivent.
C'est un vin qui est très apprécié, sinon j'ai longtemps qu'il n'est prévu partie de la carte.
Il y en a qui n'ont pas d'aigreur.
Ils n'ont pas le choix aussi.
C'est faux.
Je ne me permettrai pas de juger le vin des copains. Là-dessus.
Alors attends, on va laisser passer la voiture. Alors, le regard du négociant en vin sur le pélo. Déjà sur sa
pélo, gamme, il faut savoir que sur les vins des Côtes de Gascogne, bon évidemment on a Tariquet qui est la locomotive, aujourd'hui un des plus gros domaines de France, si ce n'est le plus gros. Pélo est un des plus anciens vignobles de l'appellation Côte de Gascogne et un des plus réputés aussi. Voilà, donc après là on est sur un blanc sec, je pense typé Colombard. Côté un petit peu agrume qui ressort. C'est vraiment la typicité des vins de Gascogne. Alors après, bon, on aime ou on n'aime pas le style, mais on est sur vraiment une très très belle maison et un vin qui, d'une manière technique, ne présente pas de défauts majeurs. On est sur un vin plaisir, voilà, un vin d'apéritif, c'est ce qu'on demande aux vins des Côtes de Gascogne en général.
Comment ça se fait que tu l'aimes pas à ce point-là alors?
J'en ai trop bu.
je crois malheureusement que c'est ça.
Allez, on va aller faire un petit tour en Angleterre avec The Lansky, un morceau très très pop. Il revisite la pop anglaise avec talent. On écoute le morceau Romeo. Well, I feel just like Romeo, sitting on the floor. And I'm reading again.
Joe.
Ça, c'est des rillettes de thon avec des capres dessus. Ça, c'est des piquillos.
Si, si, tu l'as.
Un peu plus haut. Il y a un petit côté plus. Je te conseille de goûter aussi la tomate confite. Là, ça, c'est préparé par Eric. C'est très, très bon.
Ah oui, ça, non. Je le garde pour tout à l'heure parce que ça va.
D'accord.
Franz Ferdinand, non, ça c'est le bloc parti
avec les pauvres,
un sacré mélange de Linsky.
Est-ce que au départ le choix de faire un bar à vin, c'est quelque chose d'important pour toi? Est-ce que le vin, ce qu'il y a autour, ça a une part importante dans ta vie ou pas?
Je vais te surprendre, j'aime beaucoup le vin, mais mon idée n'était pas de monter un bar à vin au départ. Le vin fait partie intégrante aujourd'hui des bars, mais il n'y a pas que du vin dans les bars aujourd'hui. Voilà. Par contre, le vin a sa place, c'est important aussi, autant que la bière, mais je ne concevais pas le concept.
Mais il me semble qu'au départ, c'était quand même l'idée Lulu bar à vin, non Lulu?
Non, non, pas du tout, non, pas du tout. Lulu brasserie, un peu atypique peut-être, mais avec un côté bar à vin, un côté... On a toujours eu des gros buveurs de bière aussi, et d'autres.
C'est un fonds de commerce impérissable, ça, la bière.
Il y a eu du bizarre aussi, il y a eu plein de choses comme ça, mais... Donc voilà, donc non, le concept bar à vin, je trouve qu'on sinon c'est trop sectorisé quoi,
trop réducteur.
Exactement, je vois les choses beaucoup plus larges. Voilà.
D'accord.
Mais n'empêche que le vin a son importance.
Alors, comme je disais précédemment, Montauban a changé un petit peu, la vie le soir, la nuit a changé. Quels sont aujourd'hui quelle est la place de Lulu Nantaise à Montauban et quels sont tes objectifs derrière ça? Ah, tu n'attendais pas une question aussi
il fait chier
sérieuse.
Tout le monde. Il fait chier tout le monde.
Moi, je croyais qu'on allait boire des coups et rigoler. Mais sérieux.
On boit des coups et on rigole aussi. Hein.
Coup, ça dérape, mais ça m'étonne pas. non, mais comment je vois ça? Écoute, Lulu, c'est un beau navire avec qui est peuplé de plein de gens intéressants et voilà, il faut que ça continue. Il continue son bout de chemin. On essaye de garder les gens qui sont avec nous le plus longtemps possible et pour aller le plus loin possible ensemble. Voilà.
Non mais t'as des idées, je sais pas, est-ce que t'as des idées pour cette année? Est-ce que tu te dis tiens, je vais, je sais pas moi, changer la déco? Déjà t'as changé beaucoup la déco. Enfin tu l'as aménagé.
Non, voilà, et on rajoute.
Tu l'as aménagé de plus en plus.
Voilà, chaque année il y a des petits trucs en plus, on l'améliore parce que bon c'est vrai qu'on peut pas tout faire d'un seul coup. On essaie d'en faire quelque chose d'un peu atypique, mais bon ça peut pas se faire comme ça là en claquant des doigts. Donc chaque année on l'améliore un petit peu, on change des choses et puis voilà. Et cette année ce qu'on souhaite faire c'est autant de concerts que l'année dernière et de belles soirées. Voilà. Ça c'est notre objectif.
Est-ce que vous avez remarqué que c'est la rentrée? Est-ce que vous avez remarqué qu'à la rentrée, il y a les bons élèves, ceux qui se mettent devant et puis qui lèvent le doigt tout le temps, qui disent moi monsieur, ceux qui posent des questions, ceux qui sont attentifs, ceux qui y vont vraiment, ceux qui vont de l'avant quoi. Et puis il y a ceux qui sont encore un petit peu en vacances, qui pensent encore et donc ils posent pas une seule question.
Il y en a qui sont pas à leur affaire.
Je pensais que
tu m'avais pas vu.
Vous savez que qu'est-ce qu'on déguste, c'est quand même une affaire d'équipe quoi les gars. Donc avec Pascal Olivier, avec Gaël, avec Christophe et puis voilà, j'aimerais bien de temps en temps vous entendre les gars.
D'accord. Mais je vais
je dis ça.
Il y a des adeptes du radiateur quand même.
Je chante une chanson au prochain tour si vous voulez.
Non mais ils sont là, ils dégustent. Ah ça, pour déguster, ils savent, hein, les gars.
Ça fait 2 mois qu'ils n'ont rien bouffé.
Oui, Mika, tu peux arroser un peu tout le monde, là, parce que...
Ouais, parce que, ouais, Mickaël vient de dire, alors est-ce qu'on boit un coup?
Pas sur rosé, peut-être.
Et alors, justement, ça tombe bien, parce que sur mon conducteur, il y a marqué qu'on va passer maintenant au premier vin. Ouais, c'est le deuxième, mais c'est le premier vin de Mickaël, c'est le deuxième.
Ah, c'est vachement bien fait, les effets spéciaux, quand même, hein, dans l'émission.
Ouais. Et donc on va faire connaissance avec Mickaël Gary qui est négociant en vin. Sa société elle s'appelle Nepenthes.
Nepenthes.
Nepenthes, pardon. Ah bah ouais, tu vas m'expliquer ce que ça veut dire.
Et donc, il
fournit essentiellement les professionnels, cavistes, restaurateurs, mais il donne aussi des cours d'œnologie aux particuliers. Donc on va faire un petit peu connaissance, même aux pros. Voilà, on a peur de rien.
Diplômé en œnologie.
Qui même me suivent.
D'accord. Bah tiens, replie donc mon verre. Attends, il y a du pélo dedans, ça serait dommage.
Ça va gâcher.
Ça va gâcher.
Il avait son secret le jour.
Alors, déjà, Nepenthes, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare ?
Alors, Nepenthes, en fait, ça vient de l'homme. C'est un mot qui vient de l'Antiquité grecque. Le Nepenthes, en fait, était un breuvage à base de vin. Et de Nepenthes, qui est aussi une plante carnivore, en fait. Qui était donnée, en fait, aux guerriers qui rentraient victorieux des croisades. Voilà. Et ça avait pour vertu de rendre les gens heureux, de chasser tous les maux et toutes sortes de tristesses. Voilà d'où vient le mot Nepenthes.
On dit que c'était chargé en opium aussi.
Ça devait être chargé en quelque chose.
Ouais. On verra à la fin.
Et donc, c'est ce mot-là que tu as choisi pour le nom de ton entreprise.
J'ai mis la consonance et puis ça change un petit peu de tous les jeux de mots qu'on trouve autour du vin, à droite à gauche. Ouais. Donc voilà. Et puis ça suscite la curiosité. Voilà. C'est un clin d'œil à mon père qui m'avait donné l'idée lors d'un stage.
Ça fait longtemps donc que tu as monté cette entreprise ?
Ça va faire 5 ans. Ouais.
C'est pas anodin négociant en vin. On n'est pas négociant en vin comme on est négociant en béton.
Non, c'est un métier de passion, enfin comme beaucoup. Mais moi, j'ai fait toutes mes études dans le vin. Je suis passé par Cahors pendant 4 ans en œnologie. Ensuite, je suis parti sur Gaillac. J'ai terminé à Montpellier dans le commerce et le marketing des vins. Donc après, on goûtera en vin rouge un Coteau du Languedoc. Voilà. Donc non, c'est un métier de passion avant tout. Voilà.
Ouais. Mais parce que par opportunité ou par vraiment au départ le goût du vin même sur la table
le goût de la bonne bouffe surtout hein, ouais. Parce que je suis un vrai épicurien, je suis ravi d'être avec vous là ce soir, donc je pense que je reviendrai si c'est possible. Non, je suis rentré dans le vin, j'avais 16 ans et complètement par hasard, donc au début c'était un pari, puis ça m'a plu, j'ai fait 8 ans d'études là-dedans, enfin, dans le milieu. Et aujourd'hui, je regrette pas mon choix. Voilà, je m'éclate, ça me permet de rencontrer des gens et d'être à table et de bien manger.
Et donc, aujourd'hui, ta clientèle, ton créneau, qu'est-ce que c'est ?
Alors, moi, je travaille essentiellement auprès des cavistes et des restaurateurs. Voilà.
Dans la région ou plus
largement ? Ouais, sur la région toulousaine, on va dire département 31-82. Bon, j'ai des clients à droite à gauche, mais essentiellement sur la région. Ouais. Beaucoup de cavistes et de très beaux restos.
D'accord. Ça c'est ceux à qui tu fournis des vins et ceux à qui tu les prends. C'est qui comment tu fais? Alors après, comment tu fais ta sélection de vins?
Pour sélectionner les vins, les salons, mes connaissances dans le milieu, puis les gens que je rencontre. Pour moi, le vin c'est une affaire d'homme. Donc c'est vraiment au feeling. Voilà. Si un courant passe bien avec un vigneron, si on a envie de travailler ensemble, si je sens qu'on va pouvoir travailler ensemble sur la durée, ben on tente quelque chose.
Voilà. Comment ça marche quand on est négociant en vin? On est obligé de faire du stock ou alors, on est en flûte?
Moi, je suis pas négociant en vin, je suis agent commercial, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une trentaine de maisons. Je leur sers de commercial, c'est-à-dire que moi
d'accord,
je fais tout le suivi, tout le relationnel.
T'as pas un gros hangar avec non, un
non,
stock
non, non.
Ou
les
cave immense.
Les clients en fait travaillent directement avec
coffre.
Le château.
Ouais. Son coffre de voiture.
Le coffre de voiture et les échantillons évidemment.
Et oui, les échantillons toujours.
Et les garages.
Il faut pas trop le dire parce que c'est la grise qui est devant. Elle est connue dans le quartier.
Vous écoutez CFM, c'est Qu'est-ce qu'on déguste, émission réalisée depuis chez Lulu la Nantaise à Montauban, place du Coq. Fin de cette première demi-heure, on a commencé les amusgales. Hein ? Voilà, on a commencé les amusgales. C'est la rentrée.
On va finir un peu plus fort.
On y va tout doux. À tout de suite. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. You need a sweet man. Alors on est plutôt pas mal, hein. On est chez Lulu la Nantaise, place du Coq à Montauban, avec Pascal Olivier, avec Christophe Bory, avec Gaël Stenbach. Ça va les gars, tout va bien?
Ça va,
tout
va bien, place, très bien, les produits sont très bons.
Cette rentrée vous va bien?
Oui, ça va. Il manque un peu de pluie, mais sinon on est bien.
À l'invitation de Lulu la Nantaise, il y a Michael Guéry qui est négociant en vin, avec qui on a déjà un petit peu discuté. Tout va bien, Michael?
Oui, très bien, très bien.
On n'a pas encore discuté avec Eric Skeven qui, lui, est le patron des richesses de la terre et à qui on doit ces magnifiques fruits et légumes qui sont posés là. Alors je dis fruits, mais y en a-t-il des fruits au milieu de ça? Tiens.
Bah oui, il y a des tomates déjà.
La tomate, hein.
Ah, la tomate est un fruit, on est d'accord. Voilà. Le melon, c'est un fruit ou c'est un... Ah, un cucurbitacé, laisse tomber, c'est encore à côté. Benoît Rottier est là également. Benoît, c'est Benoît Delalune, artisan glacier. C'est très bonne glace qu'on peut déguster aussi ici chez Lulu la Nantaise et qu'on goûtera tout à l'heure dans la dernière partie de cette émission. Tout va bien?
C'est super.
On a dégusté des huîtres, on a dégusté un truc à l'artichaut, un truc au
piment. Un truc. Des purées de légumes.
Et alors, je voulais repartir sur cette seconde demi-heure de Qu'est-ce qu'on déguste sur quelque chose qui fait un petit peu polémique en ce moment. C'est ce nouvel étiquetage obligatoire des vins, des bouteilles de vin où on va être obligé de marquer dessus « ce produit contient des résidus d'œufs ». Et c'est là où moi j'ai appris qu'il y avait des œufs. Non mais c'est pour les mecs allergiques évidemment. Mais donc il y a des œufs dans le pinard. Mais
non, il peut y en avoir.
Il peut y en avoir. Mais après on verra qu'il peut y avoir aussi du poisson, il peut y avoir
du sang de bœuf,
du cuivre.
Le sang de bœuf a déjà été interdit. Hein.
Des saloperies quand même. Hein. Alors pourquoi des œufs, Pascal Olivier?
Et parce qu'on se sert du blanc d'œuf pour coller le vin. Coller le vin, ça veut dire quoi? C'est on prend il y a un tonneau avec du vin ou une cuve, on prend des blancs d'œufs, on les bat et on balance les œufs dans le vin. C'est comme pour clarifier un bouillon. C'est-à-dire que le blanc d'œuf va tomber au fond de la cuve en emprisonnant les impuretés du vin.
C'est-à-dire qu'il va créer comme une espèce de nappe, comme ça, comme,
voilà,
comme
il va entraîner,
un tissu dessus.
Est-ce que tu as déjà clarifié un bouillon au blanc d'œuf?
Mais non, mais mon pauvre, les bouillons Knorr, ça se clarifie pas.
Là, on n'a pas que ça à foutre non plus. Hein.
C'est la même chose que ça, c'est-à-dire que dans le bouillon, pour le clarifier, eh ben, on prend du blanc d'œuf et on le fait bouillir, donc il coagule et il entraîne toutes les impuretés et les petits morceaux solides dans le fond et on a une excellente gelée après. Eh ben, pour le vin, c'est pareil. On a trouvé que, on peut mettre de la colle de poisson. C'est pour ça qu'il peut éventuellement y avoir des traces de poisson dans le vin. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui le font encore à la colle de poisson. Alors,
la colle de poisson, elle est uniquement utilisée sur les vins blancs, en fait. Voilà, elle est interdite sur les vins rouges. Elle n'a pas d'action, d'ailleurs.
T'as plus besoin de manger des huîtres ou de manger du poisson. T'as déjà le poisson dans le pinard.
Tu as le poisson dans le pinard. Voilà. C'est du cartilage, en fait. On appelle ça l'ictiocol.
C'est des éléments protéiques. Et donc, le blanc d'œuf, il va couler au fond du tonneau, de la barrique, de la cuve.
D'accord. Alors, j'ai bien compris. Alors,
tu viens de perdre 10% de ton chiffre d'affaires, là, en expliquant tout ça, à mon avis.
Nickel. Donc, on peut mettre des œufs, du poisson aussi, du sang de bœuf. Pourquoi faire du sang de bœuf?
Le sang de bœuf, on s'en servait, oui, comme collage, donc comme clarifiant. Ça a été interdit il y a pas mal d'années maintenant, pour raisons sanitaires. Souvent sur les vins rouges, aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est le blanc d'œuf. Ouais.
D'accord.
Très souvent le blanc d'œuf. Alors le collage, c'est un procédé œnologique qui existe depuis le 19e siècle, au même titre que les sulfites qui font beaucoup parler, beaucoup jaser.
Ouais, ouais.
Bon, faut savoir que ce sont des produits qui sont très réglementés.
Alors,
ça fait 150 ans qu'on les utilise. Hein,
depuis un moment, déjà, il y a marqué « contient des sulfites » ou pas, quoi.
Oui, « contient des sulfites », ouais, ça fait une dizaine d'années à peu près. Bientôt, il faudra presque un livre pour expliquer tout ce qu'on a droit. Et pas,
qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle réglementation qui va maintenant obliger
à mettre « contient
de l'œuf »
Ça fait peur aux gens. Quand on boit du vin, il faut savoir qu'il y a du sulfite parce que c'est le seul produit qui permet de conserver le vin.
Oui, mais il y a des vins naturels aussi, des vins sans sulfite.
On a des vins naturels, on pourra en parler, mais c'est assez compliqué dans la conservation. Et puis c'est un style particulier, quoi. On a toujours fait. Voilà. Le soufre existe depuis 19e siècle. Le collage, c'est un procédé qui existe depuis très longtemps.
Vous seriez pour qu'on dise rien sur les étiquettes, qu'on laisse le.
Pour moi, c'est faire.
Parce qu'il y a quand même du vin industriel où c'est bien de savoir dedans s'il y a du plomb, du taureau.
Que vous soyez industriel ou pas, de toute manière, quelle que soit la taille de l'exploitation, que vous fassiez 1000 bouteilles ou 2 millions,
les procédés œnologiques vont être quasiment les mêmes. Alors après, c'est une question de philosophie, mais je pense que tout expliquer, ce serait faire peur aux gens pour pas grand-chose finalement, puisque depuis qu'on boit du vin, ça a toujours été comme ça. Il faut pas, même quand on dit que le vin de notre grand-père était meilleur, il y avait du soufre dans les
Non, moi, je savais pas qu'on mettait du poisson déjà.
Vas-y, t'as le poisson et le vin en même temps, là, t'as plus besoin.
C'est un peu dingue. Qu'est-ce qu'on met d'autre dans le vin
On a à peu près, on a pas mal de produits autorisés, mais bon, plus ça va, plus on est sur une. Sur un mouvement, même si on n'est pas en culture biologique, on est sur une agriculture raisonnée. On essaie de revenir vraiment aux valeurs du terroir, à l'expression du cépage, à l'expression du raisin. Donc, plus ça va, plus on laisse exprimer le raisin. On fait très peu appel, de moins en moins appel aux produits œnologiques. Mais la liste est assez longue. La liste autorité est assez longue, mais c'est très réglementé, très contrôlé. On ne fait pas ce qu'on veut. Voilà.
Mais tant mieux.
Tant mieux, de toute façon, le meilleur vin, c'est celui qu'on boit avec les copains.
Oh, bravo. Alors, depuis tout à l'heure, on est en train de déguster. On a devant nous des légumes, là. Et puis, là, il y a ça, là, tu vois. Ça, c'est une tomate confite. Alors, j'avale ma tomate confite. Hein.
J'ai déjà testé, elles sont vraiment très bonnes. Apparemment,
c'est monsieur qui fait ça. Montre pas du doigt, je sais.
Non, mais c'est la radio, personne n'a vu.
Excusez-moi.
C'est Eric qui les fait, les tomates confites.
Eric Skiven.
Tomates de ma production, bien sûr. Tomates montalbanaises, transformées à côté de Montauban. Brevet sur Tescou, qui est un abattoir de transformation de matières premières. Donc, on s'est associé avec, verbalement avec le transformateur et on a sorti ce produit qui est authentique, en tout point.
Comment ça se fait la tomate confite? On l'a fait sécher.
Est-ce que tu mets du poisson et de l'œuf dedans dans ta tomate confite?
Ah, ça serait une tomate au poisson, mais là c'est une tomate simple. Non, c'est une tomate qui est séchée. Ah, merci.
Faut couper.
Merci. 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 J'ai l'hamburger devant les yeux.
Non, c'est les hamburgers
qui arrivent. C'est royal. Avec les frites des richesses de la terre, c'est encore mieux. Et non, c'est une tomate toute simple en définitive. Elle est simple, elle est juste desséchée par le fait du four et aromatisée avec de l'huile, sel, poivre. Voilà. Donc c'est la qualité de la tomate qui fait tout.
Variété particulière pour faire
oui,
la
bien
tomate,
sûr. Oui. Ouais. Qualité particulière et variété particulière.
Laquelle?
Ah, je vous dirai le nom, sinon j'aurais pas l'exclusivité sur ce type de tomate.
Breveté.
C'est un secret. Ah, bien sûr. C'est un secret.
Non, c'est pas le secret, mais il a fallu chercher et trouver le produit adapté pour faire ce type de produit vous appréciez.
Donc elles viennent pas d'Espagne?
Non, elles viennent pas d'Espagne, elles viennent de Montauban, route de Sanofari, pas loin des richesses de la terre, qui est le magasin, mais sur l'exploitation qui m'est propre, Eric.
Comment veux-tu que je fasse cette émission correctement si tu me poses sur le conducteur une assiette avec dessus un hamburger frites?
Alors attention, celui-là c'est le hamburger, celui-là. Il est à base de foie gras et de confit d'oignon.
Oula!
Et voilà, c'est caché.
C'est vrai?
Oui,
c'est
vrai.
Un foie gras et de confit d'oignon, ça?
Oui, foie gras, confit d'oignon, c'est caché.
Qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a bu? Parce que...
Alors qu'est-ce qu'on a bu? On a bu un... Côte de Provence, domaine Sainte-Lucie. Là, on est sur un domaine qui est sur la Sainte-Victoire.
Il en reste
derrière Aix-en-Provence, oui, il en reste. Sont deux jeunes vignerons qui ont une trentaine d'années, mari et femme. En domaine relativement récent, puisqu'ils ont pris les rênes de l'exploitation familiale en 2001. Autrefois, c'était un domaine qui vendait ses vins exclusivement au négoce de la maison Minuti, qui est un très très gros négoce en Provence. Les enfants sont arrivés, ont commencé à vinifier les vins, à apporter leur touche au niveau marketing, au niveau de la couleur aussi, puisqu'aujourd'hui ça joue un grand rôle sur les rosés. Les gens aiment de plus en plus les rosés très pâles. Alors on est sur un rosé avec une base principale en cinsault. Donc le cinsault est un cépage provençal qui, par définition, déjà colore très peu les vins
et
donne beaucoup de fruits. Voilà.
Alors on est sur un rosé très clair comme rosé.
Rosé très clair parce qu'on est sur un rosé en Provence, la technique des rosés, on est sur des rosés de pressé, c'est-à-dire que le raisin ne macère pas, donc on extrait très peu de couleurs. Et on utilise des cépages, donc le cinsault, la syrah, bon, qui est très connue, et le grenache, bien sûr. Voilà.
Dans mon conducteur, il y a marqué troisième vin. T'en es où, toi? Troisième vin, moi, j'en suis. Hein? Troisième vin. Musique, tu me dis. Alors.
Musique!
Alors. Pendant que oh on goûte, enfin on remplit les verres de ce troisième vin qui est un vin rouge pour accompagner
bien rouge.
Les fameux hamburgers au foie gras et excellent. À la viande.
Alors ils sont pas tous au foie gras, ouais. Nous on s'est fait avoir.
Celui-là.
Non, il faut le faire tourner là.
Hein. Ouais.
Fais tourner. Ouais. Alors écoutez, Cat Power, c'est le grand retour de la belle Shan Marshall qui nous avait habitué à des belles balades et là elle revient avec un album avec des sons beaucoup plus audacieux. On écoute ça tout de suite. Son nouvel album s'appelle Sun.
Ah. On veut, hein, de se hamburger.
Vas-y, là.
Non, mais ça va, c'est bien. Ouais. C'est bien, moi je suis pas fan toujours du foie gras mélangé à la viande de bœuf, mais j'aime bien. Ça reste au fan.
Ouais, c'est une recette gersoise, l'hamburger, c'est qui se depuis 25 ans, donc pourquoi s'en priver.
Tu mets pas de fromage du tout, tu pourrais mettre de ce fromage américain là, du cheddar.
Le cheddar, non, là il faut, c'est le foie gras qui fonde dessus, c'est parfait quoi. Le cheddar ça va rajouter un goût de plus, là c'est assez fort quand même.
Anglais le cheddar?
Je sais pas, voilà.
Je sais pas,
c'est beaucoup utilisé par les Américains.
C'est méthode américaine le cheddar.
Ah, c'est possible.
À l'auditeur.
C'est bon, c'est un burger.
Tout se passe bien ?
Ah ben, c'est plutôt pas mal.
Bon. Bien écouter Cat Power. C'est bien, non ?
C'est vieux, Cat Power, non ?
Cat Power ?
C'est pas vieux, Cat Power ?
Ben, elle vient de sortir un album. Ben, ça, c'est vieux, Cat Power.
C'est pas vieux, Cat Power ? Toi qui es vieux.
C'est une chanteuse qui vient de sortir un nouvel album.
Je ne sais même pas qui c'est.
Cat Power.
Ouais, je peux pas parler musique avec vous, allez hop.
Moi, il me semblait que c'était un vieux truc des années 70, Cat Power. Pas du tout.
Ça, c'était un dessin animé, peut-être. Cat Size.
Cat Size.
Cat Size. Cat
Size. Alors, évidemment, si celui que j'ai prévu d'interviewer maintenant est en train de discuter avec son voisin d'à côté, ça va pas le faire. Eric Skeven, les richesses de la terre.
Agriculteur et bavard, je suis désolé.
Voilà, alors vous êtes agriculteur, maraîcher dans le Tarn-et-Garonne.
Oui, à Montauban.
À Montauban.
Montauban, oui, parce qu'on dit route de Sanofari, route d'Albi, mais c'est Montauban. C'est-à-dire qu'on a, on est encore dans la commune de Montauban.
Racontez-moi un peu l'histoire de votre ferme. C'est une ferme familiale
C'est une ferme familiale. Alors, j'ai la chance, j'étais avec Christophe à l'école, vous voyez, donc on s'est retrouvés ce soir.
Christophe prend un micro à chef quand même pour parler avec
son camarade. On se retrouve ce soir avec Eric.
Voilà, on était à l'école ensemble, on a fait nos études ensemble.
Vous êtes inscrit sur Copain d'avant?
Du tout, la première fois qu'on se retrouve maintenant.
Mieux que Copain d'avant, qu'est-ce qu'on déguste.
Bon allez, vous voyez comme quoi, l'émission.
Oh là 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 là. Attends,
du lourd là.
On a... Mais comment veux-tu avoir une discussion sérieuse quand tu nous poses une entrecôte 400 grammes là devant nous? C'est pas possible.
Une entrecôte de producteur. Donc on peut parler producteur.
Eh oui, non, alors bon,
tu as également les,
on va parler de tout ça, mais d'abord parlons de toi.
Tu as également Eric. Des tomates, Eric, des tomates confites là.
Avec de l'ail,
avec de l'ail,
confit.
De très bien, personnellement.
Toujours tomates confites, vous voyez, on a mangé toutes les sauces.
Donc l'entreprise, elle est familiale au départ?
Oui, entreprise familiale, troisième génération de producteurs maraîchers.
Ouais.
Petit-fils immigré italien qui est arrivé en France.
La mafia, pareil. Tout ça, ça va?
Un petit peu. C'est un peu comme le pélo, quoi. On a essayé de faire des choses intéressantes.
On y revient au pélo.
Ah, tout à fait. C'est une référence.
Et donc maraîchage exclusivement ou d'autres choses?
Céréales? Alors, on a une activité de production maraîchère par le biais de l'outil de production et un outil commercial qui nous permet de toucher la restauration. Par le biais des richesses de la terre. C'est pour ça que vous avez une entité de production qui est Rix Kéven et un négoce de fruits et légumes qui s'appelle les richesses de la terre, qui est un négoce conventionnel qui propose tout produit maraîcher et autres. Quoi,
d'accord. Voilà. Donc vous travaillez ici avec Lulu, par exemple.
Ah, je travaille beaucoup avec Philippe.
Je crois que vous travaillez aussi avec Pierre, non?
Je bosse beaucoup avec Pierre.
Au 73.
Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop connu sur la place, sauf par les gens qui nous référencent. Donc on fait pas trop de publicité, mais le bouche-oreille fait qu'on travaille avec des belles tables de Tarn-et-Garonne.
Quand on est maraîcher, est-ce qu'il faut obligatoirement qu'on fasse tous les fruits qu'il y a, par exemple, sur cette table? Est-ce qu'il faut qu'on fasse tous les fruits et légumes qui existent? Comment est-ce qu'on fonctionne?
Du tout. Le propre du maraîcher, c'est de produire, mais après, s'il s'éparpille un petit peu trop, c'est compliqué pour tout faire et bien le faire.
Ouais.
Bon, là, vous avez un panel de produits qui est intéressant, mais c'est une.
On la verra sur le site internet qu'est-ce-qu'on-déguste.com et cfmradio.fr, cette corbeille de fruits. Là.
C'est un panier de tomates, en définitive. Donc, il y a quelques aubergines pour agrémenter le tout, quelques piments pour donner de la couleur, mais c'est quand même la même production, c'est de la tomate, quoi. Donc, même le produit transformé qui vous a été proposé, qui est la tomate confite, on reste dans la gamme tomate. Donc on est spécialisé dans la tomate.
Donc du produit de saison.
Du produit de saison, de producteurs.
Voilà, si un restaurateur te demande des petits pois au mois de janvier, tu fais quoi?
Je fais parce que je suis commerçant, mais je lui dis c'est pas la saison.
Voilà. Et tu vas quand même lui trouver des petits pois d'Afrique du Sud.
Alors, mon métier, c'est commerçant. Lulu est commerçant. Donc à un moment donné, un client qui vous demande un produit, on lui dit. C'est pas le moment, il faut
le
pas le conseiller.
Est roi.
Tout à fait. Mais à un moment donné, il faut savoir lui dire et l'aiguiller en lui disant c'est pas le moment, ne consommez pas. Mais le client est tellement déterminé.
Tu fournis pas que ce que tu produis.
Non,
tu fais négociant comme ton voisin de droite. Ah, d'accord.
Voilà. Mais je suis parti de la négociation, enfin de la négoce, parce qu'à un moment donné, en production, on avait quelques soucis. On n'était pas représenté correctement et les gens qui...
Mais surtout les saisons, les gens ne travaillent plus les saisons.
Tout à fait, tout à fait.
Grand dommage.
Et les gens, on travaille la saison.
On essaye, dans la mesure du possible, oui, tout à fait.
Donc si je veux des petits pois au mois de janvier, tu vas me dire...
Est-ce qu'on va avoir la fameuse tomate? Moi, je faisais partie à un moment de l'association contre la tomate provençale sur le bord du steak frites, tu sais. Est-ce qu'on a ça l'hiver chez Lulu?
Non, mais
la demi-tomate.
Non, du tout. Le genre de tomate que tu peux avoir, et ça sera pas l'hiver, ça sera cette période-là, c'est celle que tu as là devant toi.
Et ça c'est
terrible. Avec de l'ail confit.
Est-ce que tu peux prendre ça en photo? Parce que déjà, la présentation, je trouve, de Madame Lulu.
C'est
Madame Lulu qui l'a
fait. C'est Madame Lulu.
Prends ça en photo, s'il te plaît, pour le mettre sur le. C'est fait?
Oui.
Alors, parce que là, tu vois déjà.
Avec tes doigts dedans.
Tu vois, il y a un ail confit. J'adore ça. Faut pas parler avec moi après.
Mais non, l'ail confit.
Ça c'est bon.
C'est terrible.
L'ail confit.
La
Comment
base.
Peut-on ne pas aimer
l'ail confit?
L'ail confit.
Mais ça, c'est parce qu'on a pas encore vu le loup. Quand t'as pas vu le loup, tu aimes pas l'ail confit.
Il faut être célibataire ou alors il faut le manger ensemble.
Ouais. Non, il faut 25 ans de mariage pour ça.
Vous connaissez Didier Super ?
Didier Super ?
Didier Super.
Bah non. Non, moi non plus.
Tu connais pas Didier Super ?
Non, pas du tout.
Dit-il avec une...
une assi... C'est-à-dire que c'est juste le bon moment choisi pour parler de ça. Donc oui, on aurait pu parler de Didier Super. Donc la vraie vie de Didier Super, qui est une bande dessinée en fait.
Didier Super, c'est un artiste... chanteur qui est complètement barré.
Ah oui, complètement.
Qui est déjà passé par Montauban il y a quelques années par le festival Alors Chante.
Il me semble, ouais.
En fait, au départ, il a commencé sa carrière comme. Il a une autre carrière qu'il mène à côté.
Artiste de rue.
Il est artiste de rue et il est acrobate en.
En vélo.
En vélo.
En vélo.
En,
ouais.
En, vélo, ouais. En BMX, tu sais.
Est-ce qu'il a subi la baisse sur les carburants?
Et, non, mais c'est un espèce de fou furieux qui est capable d'aller devant une très belle. Bijouterie et puis chanter un truc du genre je déteste les bourgeois. Exactement. Qui portent des colliers en or et voilà et donc il se fait ramasser par les flics etc. C'est vraiment sa philosophie de vie quoi.
C'est un petit peu ça et donc du coup par rapport à ça il a décidé à un moment de faire une BD. Enfin on va expliquer vraiment comment ça s'est passé. Donc ça s'appelle La vraie vie de Didier Super, dessiné par Emmanuel Rezé et Didier Super au scénario. C'est édité chez Delcourt. Alors on apprend enfin toute la vérité sur cette grande vedette dont vient de parler Rémi de notre chanson française. Alors les questions c'est: peut-on vivre une carrière d'artiste intègre tout en rencontrant le succès? A-t-on le public que l'on mérite? Comment faire bander un producteur de musique? Peut-on profiter du système sans en faire partie? A-t-on le droit, surtout, d'uriner sur la porte de sa maison de disque pour faire sa promotion? Alors, depuis environ 7 ans, Didier Super évolue dans l'univers du showbiz, mais plutôt catégorie C, voire D, et se fait royalement entuber. Alors, il a donc décidé d'apporter des réponses à la question que tout le monde se pose et de tout balancer dans une bande dessinée. Alors, c'est un véritable album témoignage. Donc, on va découvrir sa vraie vie. Alors, il est né en 73. Et en fait, sa vie au début, elle est quand même super chiante. Et ça dure un peu des années comme ça. Alors, il habite chez sa mère et il sait pas trop quoi foutre. Alors, du coup, en 2002, il a une idée géniale pour plus s'emmerder. Alors, il va écrire des chansons rigolotes à la con. Et il se trouve un nom de scène pour faire rêver les cons, justement, Didier Super. Alors, Emmanuel Rezé, quant à lui, a fait ses études à l'école supérieure des Beaux-Arts de Rennes et va débuter en tant que photographe, ce qui aura une importance pour la bande dessinée. Parallèlement, il commence la bande dessinée et il va participer au fameux magazine Psychopathe. Alors, il est capable de différents styles et notamment d'intégrer aussi de la photo. Là, pour le choix de cet album qui est très très fluide glacial, ce qui correspond très bien à Didier Super. Donc, je vous ai amené quelques pages parce que j'ai prêté l'album et on me l'a pas rendu pour aujourd'hui. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et donc là, on est proche parfois du style de Gottlieb. Et Emmanuel Rezé est fan de Didier Super et c'est en fait lui qui est à l'origine du projet. Alors on le voit dans l'album malmener notamment certains animateurs radio, notamment Stéphane Bern qui avait son émission Le Fou du Roi, où comme le disait Rémi tout à l'heure, Didier Super était invité au départ pour chanter sa fameuse chanson Je veux être une star, et il commence la chanson et il s'arrête et il chante sa fameuse chanson sur les clochards, où il dit que, enfin c'est une chanson sur les clochards qui est assez épouvantable, qui va pas du tout avec l'émission de Stéphane Bern. Voilà. Et donc on écoutera un petit morceau à la fin, et quand même pour démythifier un petit peu ce personnage qu'il faut prendre au troisième degré, donc il va là pour tous les fans de Borat, je voudrais faire une petite citation qui est une vraie déclaration de Didier Super, qui est un petit hommage à tout ce monde un peu inconnu de la musique mais qui nous divertit quand même. Alors là c'est vraiment Didier Super qui parle, qui dit: j'ai démarré par le spectacle de rue, aujourd'hui j'entends les gens se plaindre, à la télé il n'y a que de la merde, on se demande où sont passés les gens talentueux ou originaux. Eh bien justement, souvent ils sont dans la rue, dans des petites salles, ce sont des artistes qui ont pour seul et unique but de faire du spectacle et de jouer pour les spectateurs. Dans le monde du show business, la création est vachement polluée par l'argent, le marketing et tout ce qui va autour. Et ça fait faire du mauvais travail. Du coup, j'avais envie de montrer l'envers du décor. Et voilà, et tout ça, ça a donné donc cette fameuse bande dessinée, La vraie vie de Didier Super, dessin d'Emmanuel Rezé et Didier Super aux éditions Delcourt. Et si on a le temps, on peut peut-être écouter un petit morceau justement de Didier Super, qui est une reprise. Je vous laisse découvrir.
Moi, je suis fan, donc.
Moi, je trouve super ce que tu viens de dire. En fait, c'est un interview de Didier Super, c'est ça?
Oui,
en fait,
c'est ça, ouais.
Et faut savoir qu'on adhère aujourd'hui chez Lulu aux cultures des cafés bars.
Voilà, c'était un petit peu l'occasion
aussi
pour ça d'en parler ici.
Ça, la défense de la culture dans les bars.
Exactement.
Très important.
Allez, Didier Super sur CFM Radio dans Qu'est-ce qu'on déguste ?
Et t'enregistres là quand je te dis que t'enregistres ou pas ?
Ouais.
Et tu peux prévenir quand t'enregistres ?
Ça enregistre.
Fils de pute. Oh, 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 oh. tu le laisses pas au montage, ok. Si je fais la tardousse, je fais la tardousse, mais tu le mets pas au montage, d'accord.
Il n'y a pas de saison pour que vive la musique. Au fond, pas de saison pour que vive le son. En marchant, tu t'ennuies, la danse à ton pas, tu sens la musique. Entre deux détroits. Wow. Deux détroits. Deux détroits. Tu dis que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça. Dans deux choses grâce au son, tu connais ta. Ton cœur est à sa fée. De pick-up, on a retrouvé des décibels dans ton check-up. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu frappes, 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 c'est ta face, on aimait. Ce rythme qui t'appelle jusqu'au bout de la nuit. Et ben y'a pas le temps, mais y'en a dans le folie.
C'était quoi cette reprise
C'était Nuit de folie, alors je me rappelle plus des auteurs.
Nuit
de folie.
Non, non, mais...
Ça ouais, s'appelle, ouais. Je me rappelle plus du nom des chanteurs mais originaux, mais je préfère garder en idée celle de Didier Super, et voilà. Et...
Merci pour cette belle chronique. Et la BD s'appelle ?
S'appelle La vraie vie de Didier Super aux éditions Delcourt.
Qu'est-ce qu'on déguste sur CFM Radio depuis chez Lulu la Nantaise à Montauban ? Yeah. Ça reprend dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Alors si vous prenez le train en marche, eh bien, tiens, écoutez ça. Ah, raté, on n'a pas entendu cette bouteille débouchée par Michael Garrick. Donc si vous prenez le train en marche, disais-je, nous sommes toujours bien calés sur CFM Radio avec l'équipe de Lulu la Nantaise.
Lulu la Nantaise. Je sais qu'est-ce qu'on déguste.
Je sais qu'est-ce qu'on déguste. Donc,
voilà. Donc c'est le bordel.
L'état
qui tourne. La dernière demi-heure.
Les vacances ne t'ont pas réussi. Faut pas prendre de vacances.
Soit
je trouve que cette émission elle flotte, soit ton affaire.
Bon, alors on reprend. Donc il y a bien Pascal Olivier, tout va bien.
Il est là.
Christophe Boris, ça va?
Mais oui, je suis là.
Gaël Stenbach.
Oui, ça va.
Il digère.
Bravo pour cette chronique sur
Didier Super. Didier Super m'a beaucoup aidé. Pour une fois, tu veux dire, voilà. C'est bien ce qui me semblait.
Nous sommes ici à l'invitation de Philippe de Lulu la Nantaise. Tout va bien?
Bah, pour l'instant, vous êtes toujours les bienvenus.
Il faut qu'on parle de ça.
Oui.
Ton chat, c'est super bon.
De la viande.
C'est vrai que jusqu'à présent, c'était un peu pourri, mais là, les derniers trucs que tu nous as amenés sont vraiment très bons.
D'accord.
Avant de continuer avec notre invité, parle-nous de ça. La 400 grammes.
Alors, la viande, on a fait le pari de prendre ça chez un boucher. Parce que,
bon, il est pas loin en même temps.
Non, il est pas loin, mais à la fois, c'est un pari. Parce qu'au niveau des prix, on n'est pas du tout dans les mêmes prix qu'un fournisseur grossiste.
Ouais.
Mais par contre, on a une viande qui, comme le fromage, est affinée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une viande de qualité et qui est à point pour la manger. Quoi. Et voilà, donc ce qui fait que c'est beaucoup plus goûteux, que c'est une viande de qualité. Voilà.
Donc, alors, c'est une viande de chez Roland, la boucherie
exactement.
À Genèse, qui est juste à côté ici. Et ça fait deux fois qu'on l'invite à l'émission, deux fois qu'il pose des lapins. Alors, il a toujours une bonne excuse.
Moi, je parlais de la cimentale, tu vas voir.
Il me dit, on finira par y arriver. Mais bon, ce soir, il faisait traiteur, donc il ne pouvait pas venir au dernier moment.
C'est quelqu'un qui est... Sans blague aucune, c'est quelqu'un qui est très 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 occupé et qui passe son temps à travailler.
Il est du matin, tu sais, ça fait partie de ses boulots. Après, quand tu dis aux jeunes, ça ne te brancherait pas d'être boucher ? Ouvrir ma boutique à 7h du matin, la fermer le soir à 21h, non merci.
C'est 7 jours sur 7.
7 jours sur 7. C'est ce que fait ce mec-là.
D'accord. Hein voilà. Qui est donc voilà. Mais j'ai trouvé plus fou, hein, parce que tout à l'heure vous avez goûté un pâté qui vient de Molière de
oui,
la charcuterie
Rénal. C'est mon voisin.
Il en reste du pâté de chez Rénal parce
il
que
est
je
là,
pas
il est là.
C'est un éleveur de porcs en plus. Donc il amène ses porcs directement à l'abattoir et après il fait des pâtés, il fait des saucisses, il fait plein de choses.
Et je crois même qu'au niveau de la préparation du boudin, il a été médaille d'or deux ou trois fois.
C'est fort possible.
On l'a pas reçu à qu'est-ce qu'on déguste
non, non, pas encore. Alors il fallait le chercher à Molière parce qu'il était invité ce soir et a priori lui aussi avait.
Oui, moi j'ai essayé plusieurs fois le voir aussi.
Ce sont des gens qui sont très pris et qui vont vraiment beaucoup de.
Ils n'ont pas le temps de perdre du temps à discuter comme ça.
Voilà,
dans
exactement.
Le poste.
Exactement. Bon, pourtant, il fait des bons produits et ça aurait été l'occasion qu'il soit là. Voilà,
attends,
je consomme pas mal de trucs.
On a une sacrée réputation à défendre. On bouffe et on boit quand même plus que de raison. Donc, ils ont peur.
On le fait toujours avec modération.
Non, je crois qu'ils ont toujours le même.
Avec modération, monsieur le président.
On est mieux placé pour ça, d'ailleurs. Je vous signale quand même qu'on est devant le tribunal.
Oui. Il dorme à cette heure-là.
D'ailleurs, il y avait une très belle affiche qui était inscrite sur la vitrine de ton voisin là pendant quelque temps. C'était ils sont pas rigolos ceux d'en face.
Bon, moi, écoute, je.
Non, moi, toi, tu vis avec.
Très bonne relation.
Mais ils sont pas rigolos, c'est pas rigolo un tribunal.
Non, quand on y va, c'est pas pour rire, ouais, effectivement.
Bah, voilà, c'est tout.
Par contre, ce sont des gens très. Enfin, les gens qui bossent sont aussi des bons vivants.
On y va, mon cher Pascal Olivier. On va vers l'interview de.
Non. Oublie donc. Oui, là, je voulais une petite question. Ouais. Alors, tous ces légumes-là, c'est des F1, c'est des graines non reproductibles ou pas?
Non, vous avez la primeur, là. Vous avez des lignées et des F1. Vous avez les deux.
Donc Qu'est-ce que tu penses alors de cette histoire de graines paysannes, donc reproductibles, hein, notamment à travers l'association Cocopelli, à qui l'Europe vient d'interdire de vendre et de diffuser donc des graines paysannes, des graines que l'on peut replanter. Parfait. Au profit des graines F1. Des graines F1, donc, ce sont des hybrides qui donnent des fruits, donc des fruits ou des légumes,
et qu'on ne peut pas
replanter. Donc, ils sont protégés par des brevets. Et l'Europe vient d'interdire à Cocopelli de diffuser ces semences paysannes. Donc, on perd toute une lignée parce que ces graines ne sont pas inscrites au catalogue, au grand catalogue général des graines. Comment tu te situes par rapport à ça?
Alors moi je me situe entre deux, quoi.
Eric Skiven.
comme le Cantal.
J'ai le cul entre des chaises. Non, je suis et producteur de plants et producteur maraîcher. Donc je déplore que les lignées disparaissent progressivement parce que.
Oui, on profite de tomates carrées bien calibrées.
Voilà.
Des donc, tomates de supermarché.
En même temps, le consommateur est pour quelque chose, quoi. Le consommateur a demandé une tomate de qualité qui ne bouge pas, qui se conserve, qui soit bonne, qui soit produite par tout temps, par n'importe qui.
C'est pas vrai, c'est des conneries. Le consommateur, c'est comme le mec de TF1 qui dit non, mais le téléspectateur, il veut regarder le Loft.
Non, c'est pas ça. À un moment donné.
Films porno aussi.
Enfin, le consommateur, il est le marché des producteurs du samedi à Montauban, c'est plein à craquer.
Ouais, mais le consommateur, à un moment donné, c'est lui qui dicte un petit peu ce qu'il a envie de manger. Et à côté, les gens se calquent par rapport à ce que le consommateur a envie de manger. La grande distribution, c'est simple. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait qu'écouter ce que le consommateur demandait, et à un moment donné, lui a proposé. En ce moment, vous avez des tomates anciennes, dites anciennes, cœur de bœuf, noir de Crimée, tomates ananas, qui se trouvent dans les rayons de la grande distribution, qui est légitime. Hein. Mais à un moment donné, c'est le consommateur qui a demandé ça. Donc on a travaillé la graine et la variété pour que la tomate soit adaptée pour ce type d'ingresse et de commerce.
Mais vous avez vu le prix que ça a pris, du coup?
Oui,
la
mais
tomate,
c'est
insupportable. Il n'y a pas un kilo de tomate à moins de 2,30, même sur les marchés à Saint-Girons aujourd'hui.
Ouais, mais vous avez
des tomates à la con.
C'est pour ça que vous avez de la chance. La tomate comme ça, ouais. Mais vous avez de la chance d'avoir un magasin Les Richesses de la Terre à côté qui vous propose une tomate à 1,99€.
Voilà.
Tu es en train de te rendre compte de combien ça me coûte quand je viens de te jeter des tomates tous les vendredis.
Bon, tu vas les acheter dans un hypermarché.
Steven.
Donc voilà, toi tu fais quand même un peu attention à tes prix.
C'est-à-dire que nous on joue le jeu. Alors, vous avez la possibilité de faire différents prix en fonction des différents calibres de produits. Ce qu'on a oublié, c'est qu'une tomate, c'est pas du boulon, quoi. C'est pas des boulons en termes de production. Vous avez de la petite tomate, de la grosse tomate, de la moyenne tomate, de la hyper grosse. Donc le pied produit en fonction de sa capacité différents calibres. Le problème, c'est que vous allez retrouver de la consommation et de la libre vente un calibre. C'est tout. Vous n'avez pas le choix. Vous avez ce calibre. Tout le reste a été éclipsé à la production. Donc qui c'est qui s'enquille? Les petits calibres, c'est les producteurs. Donc comment essayer de retrouver ces prix alléchants, ces petits produits, en passant par le producteur, dans les marchés. Les marchés locaux les proposent, les producteurs comme moi, dans nos négoces, on les propose, et dans ces cas-là, ça nous permet de proposer des prix aux consommateurs différents. Donc vous allez retrouver une tomate identique en goût, identique en qualité, à des prix inférieurs, parce que vous allez jouer sur un calibre. C'est tout. Ouais,
qu'est-ce qu'elles mangent, tes tomates, là?
Mes tomates mangent des produits naturels. Donc, je suis pas bio, je suis pas hyper conventionné, je suis entre les deux. Je suis, on va dire, un semi-biologique. J'essaie de proposer à mes tomates une nourriture naturelle en respectant le système de traitement, on va dire, naturel, biologique et alternatif.
Alors, quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Vous écoutez, qu'est-ce qu'on déguste ? Cette phrase est issue d'un vieux film.
Qui s'appelle Calmos de Bertrand Blier.
Qui est un navet, il faut le dire, mais
il y a certaines scènes
cultes à l'intérieur. Allez, nous allons faire la connaissance dans quelques instants de Benoît de la Lune. Mais juste avant, je vous propose d'écouter un duo. Un duo Tarn-et-Garonne. Il y en a un, il s'appelle Tony Smith. Il a un restaurant ici à Montauban, un restaurant mexicain qui est dans la ville basse.
Le Quetzal,
ça s'appelle, voilà. Et il fait aussi de la musique, ce gars-là. Et vous allez l'entendre chanter. C'est lui qui écrit les paroles. Si vous comprenez l'anglais, vous comprendrez. Très bien, tant mieux pour vous. Et la musique, elle est faite par Sébastien Bédé, qui est un gars qui a un studio d'enregistrement aussi et qui s'amuse à collectionner les vieux synthétiseurs, et vous allez entendre le son justement peut-être d'une TR-505 et des petites choses comme ça. C'était très agréable, ça s'appelle Audiosonics UK21 et le morceau, c'est celui qui a donné le nom à leur premier album, Sensatorial. Et donc on goûte les glaces pendant ce temps-là. Moi j'ai un sorbet mojito. Alors, glace au chocolat, sorbet mojito, pinard, tomate, viande. Moi,
bon. Ça devient compliqué.
On est bien reçu ici quand même.
Le gingembre là.
Oula. Mmh.
Ça peut pas te faire de mal le gingembre. Hein,
goûte la glace au poivre Sichuan. Parce que le poivre Sichuan, c'est quelque chose.
Je le demande.
C'est vrai? Oula, tu es dans les épices.
Elle t'en fait souvent ta femme de chocolat?
Moi, j'y ai pas droit à la maison. Hein. Voilà, mon petit bidou ne vient pas de là. Mais ceci dit, elle a du succès. Let's look to the future. But don't forget. Et amande caramélisée. Yeah, let's go down. Yeah, let's go down. Go down. Sensatorial makes no sense to me. In the beginning, we were. It's not a waste of space, it's a very private place, a very private place. It's not a waste of space, it's not a waste of space, it's a very private place.
Ah,
oui. Allez, écoute ça, c'est un petit basque à la cerise, c'est terrible.
Petit basque à la cerise, alors c'est une glace à la cerise.
Quand c'est du vent de Benoît, il y a...
Mais... Ouais, quand même.
Hein, ça le fait, là,
ouais. Je vais venir vers vous pour qu'on parle un peu de ça, mais avant, j'avais une question à poser à notre négociant en vin, Michael. Qu'est-ce que c'est qu'on boit là ?
Alors là, c'est un vin qui me tient particulièrement à cœur. C'est un coteau du Languedoc qui s'appelle Clos Orient. Donc là, on est sur un domaine très confidentiel, c'est 5 hectares.
Ça, c'est bon. Hein.
À peine 20 000 bouteilles par an. On est sur des rendements très faibles.
Mais ça, c'est super bon.
Et ouais, c'est très très bon. C'est vraiment, on est sur un produit vraiment plaisir. On est sur le fruit. On n'est pas sur un grand vin de garde qu'on va devoir oublier en cave pour se faire plaisir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. On est sur un vin où on débouche et on s'éclate de suite. Voilà.
C'est le but. C'est le but. La bouteille, parce que c'est.
C'est beau, ça. Hein.
Oh, ça, si c'est bon, dis donc. Et combien ça sort, ça, alors, dans une cave
C'est un produit qui sort en cave à 12 euros.
D'accord. Pas excessif.
Ouais. Et le millésime, la 2007, c'est une année particulière ou
Non, on est sur un millésime classique. Bon, alors après, au niveau du travail, quel que soit le millésime, on va toujours arriver à sortir quelque chose de bon, dans le sens où on est sur une vendange manuelle, donc on arrive à faire le tri à la parcelle et le tri à la cave. Donc on va éliminer tous les raisins qui seraient de mauvaise qualité, qui pourraient donner de mauvais goût au vin. Là, on est sur. On parlait tout à l'heure de collage, on parlait de sulfite. Là, pour le coup, il n'y a ni collage ni filtration. Et au niveau des sulfites, on est au plus bas de ce que la législation autorise. Voilà. Alors, c'est un domaine qui appartient à Alain Martin. C'est à peine 5 hectares, je vous l'ai dit, du côté de Metz, Poussant. On est à 10 km de 7. Alors, on parlait de passion, d'hommes. De rencontres. Là, on est sur quelqu'un qui a monté son domaine en 2003, vraiment par passion. Alain Martin, c'est le créateur à Montpellier des caves Notre-Dame. Les caves Notre-Dame à Montpellier, c'est une véritable institution, c'est-à-dire que ça existe. Un grand personnage du vin, très connu et apprécié dans le sud de la France, puisqu'il a mis en avant les vins du Languedoc à une époque où tout le monde ne jurait que par Bordeaux, c'est-à-dire dans les années 80. Ouais.
Clos Orient,
ouais. Clos Orient, en fait, parce que Sorian, c'est un mot qu'il a inventé. Son fils s'appelle Florian, sa fille s'appelle Sandra. Il a pris 3 lettres de chaque et il a créé Clos Orient. Voilà.
Et ça va super bien avec les glaces de monsieur. J'étais en train de me l'imaginer quand je l'ai bu tout à l'heure. Tu sais, avec du chocolat, simplement, tu vois. Avec du chocolat, ça, c'est terrible, ça.
Et oui, parce qu'il y a beaucoup de grenage dans la cuvée.
On t'a laissé un petit morceau de chocolat.
Hop. Mais justement, non. Mais alors
c'est ça, ça aussi, c'est
et
c'est
donc,
ce chocolat.
J'ai changé avec une glace Benoît de la Lune en chocolat. Mais voilà, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?
Tu es addict, ça y est.
Mais c'est ça. En fait, je comprends les toxicomanes.
En plus, moi, hier, je mangeais des glaces qui venaient chez Super U avec mes filles, et là, on voit toute la différence, quoi. Il n'y a vraiment aucun rapport. C'est vraiment très très bon.
Ah bon.
Ouais, c'est dit. Hein.
Alors, Benoît de la Lune, toutes ces glaces, elles sont faites où ? Elles sont faites comment ?
Alors, elles sont faites à Villeneuve-sur-Lot, dans un petit laboratoire que j'ai créé il y a 5 ans, où nous sommes 2 personnes pour fabriquer des glaces artisanales en essayant de faire du top. On vise le haut de gamme en essayant de faire des glaces meilleures que celles qu'on trouve sur notre zone, meilleures que les autres. En étant généreux dans le dosage des matières aromatiques, en les choisissant précautionneusement et en étant généreux, en mettant peu d'eau, peu d'air, pas trop de sucre et beaucoup de ce qui a du goût.
Vous nous direz comment ça marche justement, comment ça se fait une glace dans un moment. Mais d'abord, l'idée même de créer cette entreprise, Benoît de la Lune, et de fabriquer des glaces. C'est quoi ? C'est une passion de gourmandise ou une opportunité commerciale ?
C'est une passion de gourmandise et une opportunité plutôt de compétence, on va dire, puisque au départ, je suis ingénieur agroalimentaire. Et donc, j'ai souhaité quitter l'entreprise où j'étais cadre de direction pour...
C'était quoi l'entreprise ?
C'était une grosse usine de cassoulet.
C'est vrai ?
Oui.
Un truc genre William Sorin ou un truc comme ça ?
Ouais, ni l'un ni l'autre des deux marques qui viennent d'être citées, mais le troisième. Allez, voilà.
C'était quoi ? Qu'est-ce que t'as dit, toi ?
Spanghero,
William Sorin, donc c'était...
La belle Sorienne.
Presque. Ouais. Non, c'était Renard les Roquelaurent. Voilà.
D'accord.
Et donc, Voilà, j'ai souhaité voler de mes propres ailes, et comme je suis gourmand de glace, l'idée m'est venue, et puis j'ai essayé de mettre au point des produits qui me satisfassent et qui satisfassent mon entourage d'abord, qui soient aussi bons que ce qu'on a pu goûter de meilleur, là où on allait en vacances, où on trouvait des très bonnes glaces, qui nous servaient un peu de référent. Et puis petit à petit, on a lancé comme ça l'entreprise.
Alors, qui est... on a des petits pots dans la main, il faut dire ça pour les auditeurs qui voient rien. Évidemment, on a des petits pots qui me rappellent les petits pots Mika ou je sais pas quoi.
Miko.
Miko. Non, mais quand on était petit, on avait les petits pots.
Mika, c'est la chanson. Ah, voilà. Mika, il est là.
Nickel est là.
Alors en fait, ce sont des petits pots
avait les petits pots quand on était petit. On avait ces petits pots là, tu vois, avec la petite cuillère quand on allait à la cantine. Voilà. On avait la petite cuillère en plastique. Moi, j'adorais ça.
Sauf qu'ils étaient en papier paraffiné.
Voilà. Tu déroulais des rouleaux de cuillère comme ça, et puis tu prenais une cuillère. Tu savais pas quelle couleur elle allait être, tout ça. C'est magique, ça.
Ouais, c'est plein de nostalgie.
Et ça me rappelle ça, ton truc.
Voilà, oui, mais en fait, ce sont des petits pots qu'on propose pour certains de nos clients qui veulent vendre des glaces à emporter aux passants. Hein. Et on les utilise aussi pour proposer des échantillons aux restaurateurs. Donc, c'était la façon que Philippe a choisi pour vous faire goûter les glaces, voilà, d'utiliser ces petits pots.
Ah. Alors là, je vais attaquer une crème glacée fenouil sauce caramel au pastis de Provence.
Ah, ça, c'est énorme.
D'où ça sort, ça?
C'est énorme. Celle-ci, elle est sortie de l'imagination du patron, voilà. Donc, c'est l'association de deux notanisés, celle du fenouil et celle du pastis.
Ah, c'est terrible.
Et c'est une glace sucrée quand même. C'est une glace dessert, mais...
C'est pas très sucré, c'est bon.
C'est pas très sucré.
Ça a des longueurs en bouche qui sont... Mais il veut me piquer ma glace.
Alors, il y a un truc que disait Benoît tout à l'heure. On parle toujours des glaces et du produit qui sont utilisés pour les glaces. Mais il y a aussi ce problème de quantité d'air. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire des bacs de 1 kg et qui font que 500 grammes.
Voilà, qui foisonnent énormément, voilà. Comme plein de produits où il y a de l'eau.
On va parler, je me tourne
juste
vers Aurélien pour savoir combien de temps il nous reste pour... savoir si on se tourne vraiment sur la fabrication maintenant. Est-ce qu'on peut faire une petite virgule? Tu me fais une petite virgule? You need a real man. J'ai une glace au mojito, j'ai une glace au mojito. Je la garde celle-là. L'œil de Christophe qui s'allume de suite. Hey, regarde, glace au mojito, je te jure. Un truc de dingue.
Ah. Alors là, c'est un sorbet. Hein. Hein? Aujourd'hui, nous avons 58 parfums.
C'est énorme. 58
parfums. Voilà, une collection permanente, et puis des choses qui viennent chaque année se rajouter, des parfums qui disparaissent.
Quelques-uns qui disparaissent, ceux qui ne tournent pas. Parce qu'on vend des glaces aux restaurateurs. On a à peu près 80 clients restaurateurs dans le sud-ouest de Toulouse, à Bordeaux, du Gers au Périgord. On est à peu près au milieu de cette zone. Et il y a quelques parfums, il y a parfois des parfums qui tournent pas. Donc ceux qui tournent pas, ils peuvent laisser la place sur les étagères pour des nouveautés.
Les nouveautés, elles se concoctent comment?
Mais déjà, comment on fait une glace? Moi, juste la base, s'il vous plaît.
Monsieur, comment on fait une glace? Il y a deux sortes de glaces. Déjà, il y a les crèmes glacées et les sorbets. Ouais. Donc les crèmes glacées à base de lait et de crème, les sorbets à base de fruits et d'eau et de sucre. C'est les deux. Les deux familles. Après, on mélange tous les ingrédients dans un pasteurisateur qui chauffe et qui refroidit ensuite le produit. Donc ça, on obtient une crème liquide. Et cette crème liquide, après qu'elle est maturée quelques heures au froid, à 4 degrés, on la passe dans une turbine, qui est une espèce de grosse sorbetière, qui va la transformer en glace. Et on va sortir de là une glace un peu molle, qui est à moins 7 degrés uniquement, donc qui est encore manipulable. Donc on peut la mettre dans un bac et la manipuler, la former. Et ensuite, ce bac, on va le mettre en chambre froide à moins 20 degrés pour finir le refroidissement.
Alors Rémi, tu veux savoir ce que tu manges là?
Alors là, je viens de goûter un sorbet au mojito que j'ai fait passer à Christophe, qui est assez incroyable. Et là, toi, tu m'as passé non pas un sorbet, mais une glace qui doit être une glace à la menthe.
Alors je vais tout avouer, c'est-à-dire qu'au départ, non, c'est pas la menthe. Alors, au départ, je l'avais en échantillon, mais je me la suis mangé égoïstement. Donc je suis allé dans mon bac chercher ça. C'est tomate verte, citron, basilic.
C'est un sorbet.
Ah, c'est le basilic alors.
Ah, mais tu sens très bien la tomate verte aussi. Si tu,
tomate verte, citron, basilic.
Ça, c'est énorme. Tu peux faire tourner, hein, je veux dire, c'est...
Ah oui, tomate verte,
je peux pas faire
c'est extra. C'est des glaces qui ont des longueurs en bouche exceptionnelles. Des parfums, des arômes, ça sent pas le chimique.
Votre commercialisation, Benoît dans la Lune.
La commercialisation, ce sont des restaurateurs dans le sud-ouest.
Dans le sud-ouest.
Que nous livrons nous-mêmes avec notre propre véhicule.
Vous restez régional, circuit court.
Circuit court, est-ce qu'on est capable de livrer directement avec notre propre véhicule sans envoyer le.
Vous n'avez pas d'ambition d'offrir ça aux Américains ou aux Chinois?
Ça ne fait pas partie du tout de.
C'est pas le projet.
Non.
Par contre. Vente aux particuliers.
Et la vente aux particuliers pour ceux qui viennent nous acheter des glaces directement au laboratoire de fabrication à Villeneuve-sur-Lot. Et puis quelques revendeurs, des primeurs, des épiceries fines qui ont aussi la possibilité de vendre des petits bacs d'un format plus restreint.
Elles se vendent bien chez toi ?
Ah, écoute, on développe, on est très mauvais en communication. Par contre, on a.
On le sait !
Je suis content.
C'est pas nouveau. Mais non, par contre, les gens qui ont goûté aux commandes de glace en 700 ml sont ravis et reviennent à chaque fois. Voilà.
Ça fait super longtemps qu'on n'a pas trinqué dans cette émission.
Allez, c'est parti.
Là-bas, hein. Sometimes I feel like a man. Sometimes I feel up, sometimes down.
Sometimes I turn myself into a beast. Voilà, on arrive au terme. On arrive au terme de cette émission. C'était l'émission de rentrée de Qu'est-ce qu'on déguste ? Invité chez Lulu la Nantaise par Philippe. Merci Philippe de nous avoir présenté Michael Garrick, négociant en vin et qu'on peut contacter pour des cours d'œnologie notamment.
Hein. Oui, tout à fait. Oui. Comme Tupperware, je me déplace à domicile où on peut faire ça chez Lulu le vendredi à la salle du haut. C'est tout
alors,
possible.
Et il se déplace à domicile uniquement chez les filles.
Voilà. Moi, je voulais te dire quelque chose que disent bien les Mousse et Hakim des collègues. Ils disent toujours avec plaisir et c'était avec plaisir.
C'était partagé.
Merci de nous avoir présenté également Eric Skiven, donc des richesses de la terre à Saint-Nopharie.
Merci à vous. Merci,
bravo pour votre boulot, Eric, vraiment.
Ah, c'est du travail de terrain, du travail d'agriculteur, un travail de sape.
On a de la chance, nous, de vivre dans le sud de la France,
de
pouvoir
côtoyer
ces gens-là. Il y a tout le reste, tout ce que vous nous avez fait sentir tout à l'heure et que les auditeurs peuvent pas savoir, mais il y a des saveurs qui sont énormes. Aurélien gueule parce qu'on est au bout de l'émission. Oui, d'accord, on y va.
Rabat-joie.
Merci. Oui, ben c'est un rabat-joie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Donc il y a plein de choses à faire ce week-end.
À Benoît de la Lune, enfin Benoît Rottier.
Merci à CFM et à Lulu la Nantaise, à toute l'équipe de nous avoir accueillis.
Merci à vous, les gars.
Et merci à ceux qui sont venus nous voir. Il y en a qui ont fait le déplacement juste pour venir nous voir.
On se croit aux grosses têtes, dis donc.
Ouais, t'as vu ? Ah putain. Ah, est-ce que j'ai mis ma couche ? Non, ce serait pas ça. Le plus dangereux, ce serait d'avoir oublié la couche.
Je peux juste placer. J'en profite parce que moi, j'ai de la com gratuite. Donc. Chez Lulu, ce week-end, ça va bouger quand même vendredi soir. Donc ce soir. Bar à Rhum, Calypso, Rocksteady et Rock'n'Roll 60s.
Avec qui
c'est DJ uniquement. C'est DJ. Mais par contre, on a un super bar à Rhum organisé par Petit David. Donc DJ Lamoroso.
Yes, DJ Lamoroso, il est encore là ou il est parti?
Il est parti. Il est allé se reposer pour demain. Et samedi soir, on ouvre le resto. Alors par contre, Paris, il y a date poisson, grillade, tout ce que vous avez pu un peu goûter ce soir. Et avec Monsieur Georges donc à la musique, voilà.
Ce week-end, la samedi soir.
Voilà.
D'accord, pour les 400 coups, parce que c'est les 400 coups à Montauban. Ok, merci. Nous on continue derrière tout ça parce qu'il n'y a pas de raison. On n'est pas obligé de tout ranger, on peut rester discuter. Bon ben ça marche alors.
Bon week-end.
C'était Qu'est-ce qu'on déguste depuis chez Lulu la Nantaise à Montauban, place du Coq. Ouh, qu'est-ce que c'est bien la rentrée.
Ouais.